Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en octobre 2009 et c'est l'épisode numéro 20. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20e épisode de Rendez-vous Tech. 20 épisodes déjà, ça va tellement vite. Avant de nous congratuler et de nous dire bonjour, je dis bonjour à la chatroom. Bonjour à vous tous et merci d'être présents, aussi nombreux et aussi actifs. C'est très gentil à vous d'être là et si vous voulez nous rejoindre dans la chatroom, si vous écoutez le podcast parce que vous l'avez téléchargé ou en streaming sur le site, eh ben vous pouvez avoir plein d'infos justement sur le site, sur les moyens de nous rejoindre quand on enregistre l'émission deux fois par mois ou une fois toutes les deux semaines plutôt, le lundi à 10h du soir. 10h du soir pour nous, l'heure a été changée, mais certaines personnes parmi les animateurs ne s'en souvenaient pas.
Je veux pas dire, mais il y a trois animateurs, il y en a deux qui n'ont pas bougé, il y en a un qui a bougé. À qui c'était de rappeler aux autres ? À qui c'était ? Hein ?
Ouais, hein ? Quand même. Oh.
C'est vrai que maintenant, maintenant que Yann est sur le continent américain, je n'ai plus vraiment l'excuse de dire que la majorité est en Europe. Comment allez-vous, Jeff Clavier, qui nous rejoint en direct de la Silicon Valley, comme tous les mois, puisqu'il est là une fois sur deux, et Yann également, qui nous rejoint maintenant en direct de sa nouvelle maison à Montréal. Vous allez bien tous les deux. Quelle heure il est pour vous, tiens, qu'on se fasse une idée, Yann d'abord ?
Ici, il est 17h.
D'accord, et Jeff ?
Et pour moi, il est 14h.
D'accord, au lieu de 13h, comme c'est le cas d'habitude, avant l'heure d'hiver. Bon, mais en tout cas, vous êtes là et je vous remercie des divers sacrifices que vous avez faits puisque vous vous êtes rendu compte il y a une demi-heure que l'heure avait changé.
Parce qu'on était, frantiquement sur Skype en disant mais il est où, mais il est où.
Je voyais qu'il y avait 8 personnes sur le chat. Et oh là là, ils sont pas nombreux cette fois-ci. Ils sont où, quoi? Et puis finalement, là, je vois qu'on est plus de 200. Ça fait plaisir.
Jeff, d'ailleurs, tu n'as pas mangé, comme tu le disais, donc tu risques d'être un peu énervé.
Non, j'ai changé mon agenda à toute vitesse de manière à pouvoir être là, et donc je n'ai pas déjeuné, et donc je vais faire une hypoglycémie en direct.
Écoute, en tout cas, nous te remercions de ce sacrifice, et ça tombe vraiment bien, puisqu'on a beaucoup de choses intéressantes dont on veut parler ce mois-ci, sur cet épisode, je dis ce mois systématiquement, c'est compliqué quand c'est un bimensuel, hein. Donc dans cet épisode, et notamment, principalement, de Windows, de nouveautés chez Apple, et pas mal de Twitter avec quelques petites autres choses en plus. Donc les trois gros thèmes récurrents du Rendez-vous Tech, on va commencer immédiatement avec Windows pour l'événement de la semaine dernière, à savoir la monumentale sortie de Windows 7 qui a fait quand même pas mal de bruit au final. Enfin, on s'y attendait, c'est un petit peu normal, mais ce qui est un petit peu surprenant à mon sens pour Microsoft, c'est qu'il n'y a eu que du positif. À part chez Apple, on va en parler dans deux minutes. Mais dans l'ensemble, tout le monde a été super positif. Est-ce que l'un de vous a déjà installé Windows 7 ou on va parler sans savoir de quoi on parle ?
Si, moi je me suis risqué donc à une mise à jour de Vista à 7 donc hier. Et ça a été un petit peu chaotique puisque finalement ça m'a pris 4 heures pour faire la mise à jour. Puisque faut le savoir, donc je préviens tout le monde, hein, puisque j'ai fait la mise à jour. Le truc il s'est bloqué à 21%, mais genre pendant une heure, quoi. Il est bloqué à 21%. Donc j'ai rebooté la machine et tout, et en fait c'est juste que c'est hyper long. Il a pu me rattraper le truc, tu vois, mais si jamais vous faites une mise à jour de Windows Vista à Windows 7 et que ça prend plus de 3 heures, c'est normal, vous inquiétez pas, et surtout ne rebootez pas votre machine, vous risquez de perdre beaucoup de données. Mais sinon, après, au niveau du système d'exploitation, je suis bien content d'avoir fait ma migration. Le système est vraiment stable, réactif, et beaucoup des applications qui ramaient un petit peu avant sur ma machine sont maintenant beaucoup plus véloces et agréables à utiliser. Donc je fais partie de ces utilisateurs qui sont très satisfaits de cette nouvelle monture.
D'accord. Yann, ton son varie beaucoup. Je ne sais pas si c'est quand tu bouges près de ton micro ou pas, mais ça change, le volume change un peu. Donc,
je vais installer du scotch entre moi et mon micro.
Voilà. Si tu peux te rapprocher un tout petit peu, ça sera parfait.
Okay, d'accord.
C'est vrai que Windows 7 a un énorme avantage, on l'avait déjà dit, mais c'est l'une des premières fois que le système est plus rapide que le système précédent, en tout cas sur chez Microsoft. Donc ça, c'est un point positif. Jeff, toi aussi, t'as installé ou pas ? Tu t'es pas risqué ?
Non, parce que moi, j'ai reçu en fait de Microsoft deux Windows 7 Ultimate, donc je suis pareil, j'ai mes CD, enfin mes DVD, mais j'ai encore un vieux ThinkPad X41 tablette qui tourne sous XP, puisque j'avais jamais fait la migration Vista. Et là, en fait, je suis en train de me poser la question de quelle machine je vais acheter pour passer sur 7 directement.
D'accord.
Donc si vous avez des suggestions de quel laptop 15 pouces je devrais prendre, ce serait très bien vu.
Je crois qu'il y a une société dans la Silicon Valley qui fabrique des ordinateurs très fiables et très bien designés. Ils ont un logo de fruits et un truc comme ça. Il paraît que Windows tourne très bien dessus. Ah oui, Apple, voilà, c'est ça.
Ah ouais, mais je vais pas prendre un Apple, j'en ai un sous le nez et c'est ma machine préférée. Donc non,
justement,
je vais prendre un vrai PC. Je vais faire comme Loïc a acheté un HP, je crois.
Ouais,
pour se rendre compte, la vraie expérience, et donc je vais faire la même chose.
D'accord. C'est vrai que, juste un petit mot sur la promotion et le buzz marketing qu'ils ont fait autour de Windows. Les pubs Windows 7 ne sont pas extraordinaires. Les pubs où ils disent « Oui, Windows, c'est mon idée, c'est moi qui y ai pensé. » En fait, pour les gens qui ne les ont pas vus, les pubs, c'est différentes personnes qui viennent devant la caméra et qui disent « En fait, il faudrait faire un système qui tourne plus vite. Il faudrait faire un système où les choses ne posent pas de problème, qui ne bug jamais. Oui, ça, c'est mon idée. J'ai pensé à faire Windows 7 parce que j'ai pensé à faire ça. » Ce que ça veut dire, en fait, dans la pub, c'est que avant, ça plantait, ça tournait pas vite, c'était pas fiable, etc. Enfin, je sais pas, moi, c'est comme ça que je le comprends, mais...
Ouais, enfin, c'est vrai qu'on pourrait penser ça. C'est vrai que c'est un petit peu moins mordant que les pubs qu'on fait Apple. Notamment, je sais pas si vous avez vu les trois spots publicitaires qu'ont sorti Apple par rapport à, ben, justement, par rapport à la sortie de Windows 7, qui avait beaucoup plus de mordant, où, globalement, ils essayaient de mettre en évidence les défauts de Windows 7, alors que toute la presse dit à l'unanimité que c'est un très bon système d'exploitation. Apple a quand même trouvé le moyen de sortir trois pubs qui étaient assez marrantes, hein, il faut l'avouer, où globalement ils mettaient le point sur le fait que quand vous faites une migration de Windows XP à Windows 7, c'est tout simplement pas possible. On est obligé de perdre toutes ces données et donc du coup, quitte à perdre toutes ces données, autant passer sur Apple, comme quoi on est
à les perdre
ces données.
À les perdre ou à faire un portage compliqué, disons, ils disent tant qu'à faire compliqué, autant passer sur le système Apple.
Voilà.
Moi j'avoue que ces pubs, bon, la logique pourrait être cohérente, mais personnellement, elles m'ont horripilé, les pubs. Parce qu'au bout d'un moment, à force de... Encore quand c'était sous Vista, il y avait une sorte de consensus qui disait, même s'il était, pour moi, il n'était pas justifié, Vista n'est pas bien, Vista est comme ci, Vista est comme ça. Là, c'est un système qui est véritablement excellent, qui est très bien fait, qui est rapide, qui est bien conçu, qui est tout ce qu'on veut. Et malgré ça, Apple, mais c'est normal hein, qu'il continue à taper dessus, mais malgré ça, il continue à taper dessus avec des arguments un petit peu spécieux.
Léger.
Et pour moi, c'était un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ça m'a véritablement retourné contre ces pubs Apple. Je les ai trouvées insupportables et ça m'a horripilé. Il y en a une ou deux qui sont vaguement, qui me font sourire, mais dans la j'ai presque envie de dire dans la morale de la chose, ça me convient plus et je trouve ça trop bas comme attaque. Avant, c'était genre petit clin d'œil, c'est marrant, on rigole entre nous. Là, ça devient ridicule, ça devient trop bas.
Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Mais Steve Ballmer, je sais pas si vous avez vu une interview qu'il a accordée à Engadget, où il répondait plus ou moins à cette petite campagne publicitaire avec une petite phrase, un petit pic comme ça que je trouve assez marrant. C'est qu'il disait que finalement, Apple, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui, chez Best Buy, on peut avoir un Windows Mobile, plus un netbook, plus un PC pour le prix d'un iMac. Donc voilà, quoi, vous pouvez sortir tout ce que vous voulez, mais la réalité, elle est là. Et bon, j'avais trouvé ça me rappelait un petit peu ce que disait Microsoft encore sur la Xbox 360, enfin pour contrer la PS3. Il disait, voilà, pour le prix d'une 360 plus d'une Wii, vous pouvez avoir une PS3. Donc il revient toujours sur cette notion de coût, quoi. Mais je trouvais ça une attaque moins directe et un petit peu plus classe que les attaques frontales que font Apple. C'est vrai que c'est un peu lassant à la longue, quoi.
La chatroom est également très partagée sur le sujet. Mathieu Blanco est dans la chatroom, donc forcément il défend son beefsteak Apple, plutôt sa pomme. mais c'est vrai que les gens sont partagés. Hein. Y a pas que lui. Hein. Je veux dire, d'autres personnes disent ah non, elles sont marrantes. Certains défendent Apple, d'autres disent oui, c'est vrai. Patrick, tu es plutôt neutre, donc c'est très bien, etc. Bon, comme d'habitude, c'est très partagé. Je pense qu'on
non,
va
mais
pas
en tant que fanboy Apple. Sur le podcast, je pense qu'effectivement, si Apple n'avait pas d'inquiétude par rapport à Windows 7, ils n'auraient pas réagi aussi rapidement.
Oui.
Bon, parce qu'objectivement, okay. tout ce que j'entends, c'est que c'est un bon OS, quoi. C'est ce que Vista aurait dû être.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, je l'avais dit à l'origine et je le redis maintenant, les gens qui crachaient sur Vista avec une bile démesurée se retrouvent à encenser 7 aujourd'hui, alors que finalement, l'un dans l'autre, ils sont quand même très similaires. Donc, bon. Bref, la sortie de Windows 7, c'était le gros événement chez Microsoft ce mois-ci. Et comme par hasard, ces derniers temps, et comme par hasard, à peu près au même moment, Apple a sorti, a annoncé, a mis en vente de nouveaux matériels directement sur son magasin en ligne. Donc, sans grandes annonces, sans tambour ni trompette. On ne va pas détailler tous les différents ordinateurs qui sont arrivés. Il y a de nouveaux iMac, un nouveau MacBook bon marché pour Apple, qui est à 900€ seulement, qui est évidemment de qualité assez correcte pour le prix. En même temps, c'est normal, mais dans la tradition Apple. Le truc, par contre, qui est un petit peu plus innovant, un petit peu plus intéressant, c'est la Magic Mouse. Et c'est un scénario qui se reproduit un petit peu comme au moment où... Bon, je vais donner un petit peu de contexte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, juste avant l'annonce de l'iPhone, dont la caractéristique principale était cette interface multi-touch tactile, quelques semaines ou quelques mois avant, Microsoft avait annoncé sa table tactile, la Surface, qui a en gros le même type de la même philosophie d'interface. Et bien là, la dernière fois on parlait des souris tactiles de Microsoft, des souris multi-touch avec différentes technologies, il y a, donc 2 semaines, et là, le scénario se reproduit, c'est-à-dire que là où Microsoft parle presque de concept, en quelque sorte, mais en premier, Apple arrive quelques temps plus tard et sort un produit déjà fini et déjà disponible qui fonctionne et qui est totalement utilisable. Et donc là, il s'agit de la Magic Mouse, qui est la nouvelle souris d'Apple, qui est une souris... classique par certains aspects, c'est-à-dire que vous déplacez le mulot sur votre table pour déplacer votre curseur, vous cliquez dessus pour cliquer, mais en plus de ça, toute la surface de la souris est une surface tactile qui vous permet de faire des mouvements avec votre doigt pour faire certaines choses à l'écran et même de faire des mouvements avec 2 doigts pour faire des choses différentes, pour zoomer, pour incliner, etc. Donc c'est 1 ou 2 doigts. Et ça ouvre des possibilités quand même intéressantes parce que l'un des aspects très originaux et très très réussis des portables Apple, c'est justement comment ça s'appelle sur les portables, machin pour contrôler
le trackpad.
Voilà, le trackpad. Le trackpad multitouch qui est super bien fait et super pratique. Et là, ils reprennent quelques-unes des fonctionnalités de ce trackpad sur la souris directement. Donc, ils amènent ces fonctionnalités à tous les ordinateurs de bureau. Donc, pour moi, c'est un concept très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et c'est plutôt un truc réussi, à mon sens. Vous avez vu les présentations ? Vous en pensez quoi ? On va commencer par le fanboy, Jeff.
Oui, j'ai vu les présentations. Elle est sortie déjà ? Elle est dispo ou pas encore ?
Oui, elle est disponible tout de suite.
Parce que j'ai pas eu le temps de passer à l'Apple Store qui est...
C'est pas novembre. Il me semblait qu'il commençait à balancer à partir de novembre, en fait. Ma femme l'attend, en fait. Elle veut l'acheter et il les balance pas avant novembre. Je crois que le petit modèle, oui, mais le 27 pouces, c'est pas avant novembre. Enfin bref.
On va demander à la chatroom.
Parce que l'iMac 27 pouces, ça a l'air vachement sympa. Et je pensais en fait changer celui de ma chère et tendre, qui a le 24 pouces. Mais la Magic Mouse, elle est sortie ou pas encore ? J'ai pas eu le temps de passer à l'Apple Store. Et pourtant, il est juste à deux blocs chez moi. Je peux y aller maintenant, là.
On demande à la chatroom. Certains disent qu'elle est déjà disponible. Mais écoute, continuez à parler. On fait comme si de rien n'était. Et moi, je vais passer sur l'Apple Store, là, sur le net, et je vais vérifier. Donc faites comme si je savais pas. Il ne se passe rien, vas-y. Donc Yann, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
On va essayer de meubler en attendant que tu trouves la réponse. Non, mais je dois dire que moi je suis, alors on va dire que je fais moi mon fanboy Microsoft, mais je suis assez réservé sur cette Magic Mouse en tant que joueur, en fait, puisque ce qui est assez dérangeant avec ce type de dispositif, autant ça peut être intéressant et pratique pour une utilisation bureautique, autant dans un jeu, on a besoin d'un feedback, on a besoin de sentir le clic. Moi, quand je joue, j'ai constamment mes deux doigts sur la souris et c'est à un instant, enfin au millième de seconde que je clique pour pouvoir faire mon truc et quand ton doigt il tremble ou t'es en train de faire des mouvements, tu déplaces la souris, tu peux par accident cliquer, enfin poser ton doigt et que ce soit interprété comme un clic. Donc je sais pas s'il y a une notion de pression, c'est-à-dire au-delà d'une certaine pression, on considère que c'est un clic ou pas, mais c'est vrai que moi en tant que joueur, c'est pas le dispositif vers lequel je me tournerai. Je pense que j'aurai une souris normale, quoi. Par contre, en revanche, le 27 pouces, je le trouve vraiment magnifique. Il y a rien à dire. J'ai quand même juste une petite appréhension par rapport.
Excuse-moi, je précise simplement deux choses. La souris est effectivement disponible tout de suite, mais elle est en attente de livraison, donc il faut quelques jours. Donc elle est disponible, mais ils disent 5 à 7 jours ouvrables pour le. Donc vous pouvez la commander aujourd'hui. Et le 27 pouces, c'est l'iMac, hein, c'est-à-dire c'est l'ordinateur tout en un. En gros, vous n'avez que l'écran et ça constitue tout votre ordinateur et c'est un nouveau modèle. Mais pourquoi tu le trouves spécialement plus beau qu'avant ? Il n'est pas si différent.
Parce qu'il est
plus
gros.
Ah d'accord, ok. C'est juste la taille, quoi.
L'écran est énorme, quoi. Donc voilà. Et puis la seule inquiétude que j'ai par rapport à ça, c'est le recul, parce que quand même 27 pouces. Enfin, quand tu calcules, tu regardes un petit peu 27 pouces. Il faut quand même un recul de 70 cm, quoi. Écoute, donc
j'ai un écran 27 pouces chez moi parce que comme j'ai pas de télé, je m'en sers pour regarder mes trucs et je suis en train de montrer à la chatroom là la taille à peu près de l'écran par rapport à ma main. Faut savoir que j'ai des grandes mains, donc voilà. Franchement, moi je l'ai depuis un an et demi et on s'y fait. Si c'est uniquement pour travailler sur l'ordinateur, moi je regarde mes DVD, ce genre de choses, je pense qu'un 24 pouces suffit si c'est uniquement pour travailler sur l'ordinateur, mais c'est pas non plus gênant d'avoir un 27 pouces, hein. Moi je m'y fais parfaitement et je m'en accommode tout à fait, quoi. Donc voilà, l'expérience me prouve que c'est bon.
Très bien.
Voilà. Bon, écoutez,
je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Jeff. Non.
Non, t'as pas les mêmes inquiétudes. L'iMac 24 pouces était génial et je pense que je vais faire l'achat à 27 parce qu'il a l'air quand même vachement beau. Puis la Magic Mouse, bientôt, quoi. Je pense que le prochain RDV, j'aurai ma Magic Mouse.
Ah, d'accord, tu nous feras un test en direct. Ce qui est clair sur la Magic Mouse, c'est que pour les jeux, c'est même pas la peine, quoi. À moins qu'il y ait certaines fonctionnalités spécifiques qui soient développées à l'avenir, mais. Aujourd'hui, a priori, c'est même pas la peine. C'est clair.
Moi, je suis un keyboard turner, donc de toute façon.
Non, mais même si tu joues plus au clavier qu'à la souris, le fait de ne pas avoir un deuxième bouton facilement accessible, de pas avoir la réactivité qui est aussi bonne que sur une souris normale. Mais ceci dit, tu peux avoir une Magic Mouse pour tes applications bureautiques et passer sur une autre souris quand t'es en jeu, quoi. C'est possible aussi. Si la Magic Mouse apporte l'agrément d'utilisation que les trackpads des MacBooks apportent, moi je serai plutôt client. Hein.
Mais quand tu as un MacBook devant toi, Patrick, tu utilises le trackpad sans problème. T'as pas envie de brancher une souris puisque
il
est sympa à 2 minutes, quoi, mais je le supporte pas sur la longue. Quoi.
Tu as les nouveaux en fait qui sont grands avec toutes les gestures, tu sais, l'écran tactile multipoint.
Ouais, c'est celui qu'a ma sœur, mais c'est sympa au bout d'un moment, j'ai besoin d'une souris, quoi. J'ai du mal à m'y faire sur la longueur, mais bon, c'était juste pour avoir
Moi, le truc, c'est que je l'ai pas utilisé sur une très longue période. C'était quelques dizaines de minutes chez des gens ou ce genre de choses. Ça me plaît, mais peut-être qu'au bout de quelques heures, je voudrais retourner vers une vraie souris. Enfin, bon, bah, en tout cas, moi je suis assez pressé de tester la Magic Mouse. On verra ce que ça donne. Et j'attends ma copie de Windows 7 pour très bientôt. Peut-être que je ferai l'upgrade, on verra. Mais comme c'est ma machine de production en fait pour les podcasts sur laquelle j'ai Windows XP, je sais pas si je ferai ça tout de suite. Bref, il y avait aussi quelques histoires sur des pubs, des combats entre Motorola et iPhone et ce genre de choses. Je crois qu'on va passer là-dessus parce qu'on a fait suffisamment d'histoires d'adverse combativité par les pubs. Et on va passer directement sur... Oula, attendez, j'ai un petit truc où il est. On va passer à ça.
La minute, le quart d'heure, la demi-heure Twitter.
Ça fait plaisir que tu l'avais préparé cette fois-ci.
Parce que
c'est toujours les autres qui en profitent.
Il est toujours préparé. Le truc, c'est que la machine sur laquelle je fais le streaming et sur laquelle je fais les petits sons est tellement vieille et tellement lente, c'est un vieux Dell portable, que souvent, elle met du temps à démarrer. Donc je dis, attendez, ça va y aller. Et puis finalement, ça n'y va pas. Enfin bref, cette fois-ci, ça a marché. Super. Donc... messages Twitter et Facebook chez Bing. Alors ça, c'est un truc absolument énorme qui a été annoncé la semaine dernière. Bing, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est le moteur de recherche de Microsoft, dont l'équivalent de Google pour Microsoft. Et il est en train de prendre des parts de marché petit à petit, mais très sûrement. Et tout le monde s'accorde à dire que le moteur est très efficace. Et ils ont fait un deal avec Twitter et Facebook pour intégrer dans les recherches que vous allez faire des résultats qui viennent directement de Twitter et également de Facebook. Ce qui veut dire qu'ils ont intégré un élément extrêmement important du nouveau web, entre guillemets, c'est le web en temps réel. C'est une nouvelle tendance depuis l'avènement de Twitter et des autres services de ce genre-là qui fait que même attendre un jour ou 24 heures ou un petit peu plus le temps que Google ait récupéré toutes les nouvelles informations du web et vous les propose dans ses recherches, c'est plus assez rapide. Il faut avoir les informations au moment où elles arrivent, c'est-à-dire au moment où elles arrivent sur Twitter, puisque l'outil d'information en temps réel aujourd'hui, c'est Twitter. Et Bing a donc, Microsoft a annoncé ce deal qui leur permet d'intégrer tous les résultats de Bing, tous les résultats de Twitter à vos recherches que vous ferez sur Bing. Et c'est un truc énorme parce que d'une part, ça donne une légitimité, un avantage à Bing par rapport à Google qui ne l'a pas encore. Et d'autre part, ça donne une légitimité incroyable à Twitter dont on vous parle depuis longtemps. Donc vous êtes au courant si vous écoutez l'émission depuis quelques mois. Mais ça lui donne une véritable légitimité en tant que source d'information et pas uniquement en tant que source de pour savoir ce que vos amis ont mangé ce midi, quoi. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était un deal véritablement important et véritablement intéressant à la fois pour Microsoft et pour Twitter. Je me retourne vers notre spécialiste.
Juste une petite chose, Google a fait le même deal avec Twitter, hein.
Oui, alors c'était un petit peu Google tout à coup qui se retourne, genre le lendemain ils ont dit oui, nous aussi.
Non, c'est parce qu'en fait ils ont annoncé, ce qui s'est passé c'est qu'ils ont annoncé l'intégration de Twitter et de Facebook dans Bing à la Web2O Summit la semaine dernière, donc à San Francisco, et les gus de Microsoft sont passés en premier, et donc c'était Mehdi je crois qui a fait l'annonce, et Marissa Mayer a annoncé l'intégration de Twitter dans Google genre 3-4 heures après, parce que dans le programme c'est à ce moment-là où elle a passé.
D'accord. Donc c'était vraiment un truc qui s'est fait en même temps. Mais est-ce que les résultats sont déjà intégrés à Google dès aujourd'hui?
Parce que non. Ils ont dit que ça prendrait plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que ce soit intégré.
Et est-ce qu'ils sont intégrés à Bing?
Je crois que c'est la même chose.
Non, non, c'est ça. Ils sont déjà disponibles.
Ils ont fait une première intégration, mais elle est pourrie.
D'accord.
Bon, allez, on peut l'améliorer, disons-nous.
D'accord.
C'est-à-dire que si tu regardes le résultat de bing.com/Twitter et que tu fais des recherches, c'est pas encore là, mais bon, c'est
pas
une
encore
première.
Ça. Ouais.
C'est pas. Oui.
D'accord.
Et mais en gros, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est qu'ils vont utiliser Twitter pour en tant que source d'informations supplémentaires pour leur recherche. Et je pense qu'in fine, ce qui sera intéressant, c'est le jour où ils feront le même deal avec Bitly, chose qu'on n'annonce pas pour le moment, parce que ce n'est pas encore fait, et puis ce n'est pas en cours de discussion. Mais toute l'idée, c'est de pouvoir rafraîchir l'index.
Je vais quand même expliquer ce que c'est que Bitly, parce que les gens ne savent pas forcément. Bitly, c'est un de ces outils qui permet de réduire la taille d'une adresse Internet. Et ça sert énormément sur Twitter, où la taille est limitée. Donc en fait, c'est Bitly, qui est un site web, a énormément d'informations sur ce dont les gens parlent en direct sur Internet. Parce que pour diffuser ces informations sur Twitter, beaucoup de gens utilisent Bitly. Et je précise que Bing, en France, n'intègre pas encore la page bing.com/Twitter. C'est uniquement aux États-Unis. Donc tu disais quand ils vont l'intégrer?
En fait, le problème d'intégrer en direct Twitter et Facebook sans avoir une notion de filtrage de bruit, c'est que tu rajoutes un tonneau de saloperie dans l'index, et donc ils vont rajouter de la saloperie en temps réel. Et donc la problématique, c'est comment est-ce qu'on prend le 10% ou 5% du flux Twitter et du flux Facebook qui a vraiment de la valeur et qui devrait en fait être élevé par Google et par Bing. Et en fait, une des méthodes pour faire ça, c'est de suivre les choses les plus populaires sur Bitly, parce que Bitly va en fait te permettre de suivre très très rapidement, en quelques minutes, en quelques heures, le contenu le plus populaire qui se trouve sur le web. Et d'ailleurs, je dois immédiatement mentionner mon conflit, puisque je suis un des investisseurs de Bitly. Mais c'est franchement quelque chose de fascinant, quoi, puisqu'ils ont grossi à une vitesse stratosphérique, puisqu'en fait aujourd'hui, ils grossissent plus vite que Twitter, puisqu'ils sont passés de 1 million de clics à 1 milliard de clics en quelques semaines.
Effectivement, oui, c'est pas négligeable du tout. Mais oui, c'est sûr que Bitly est un de ces services qui s'est retrouvé catapulté par Twitter à un niveau d'utilisation qu'il ne soupçonnait pas, et ils ont réussi à, on s'écarte un peu du sujet, mais ils ont réussi à détrôner d'autres services qui étaient déjà présents sur le marché en innovant et en proposant des outils qui n'étaient pas disponibles ailleurs. Je crois que ça devient un petit peu arcanique pour les auditeurs, donc on va pas trop s'étendre là-dessus, mais pour toi, Jeff, l'intégration de Twitter, c'est très bien, mais il faut du contexte, et Bitly permettra, Bitly ou les autres, hein, mais Bitly est le principal, permettra de fournir ce contexte.
Voilà.
Yann, ça te change la vie de savoir que Twitter va être intégré sur Bing et Google à terme ?
Pas vraiment, en fait. Enfin, je trouve ça cool. Je pense que c'était inévitable que ça arrive. Mais je dois avouer que bon, le simple fait d'avoir les tweets à l'intérieur d'une recherche Google et Bing, c'est pas quelque chose qui va transformer ma vie. Un peu dans le sens que disait Jeff. Moi, j'attends une intégration beaucoup plus intelligente, quelque chose qui va justement s'appuyer sur le fait que on ait une grosse activité sur Twitter sur un sujet, et que ben, justement ce sujet permette d'identifier des URL pour qu'elles aient plus d'intérêt et plus de pertinence. Et que finalement, au lieu de simplement rajouter les résultats de Twitter dans une recherche Google, ben plutôt que Google ou Bing s'appuie sur Twitter pour mieux trier,
améliorer ces résultats
faire
qu'ils ont déjà.
Les résultats pertinents par rapport à une recherche. Donc voilà quoi.
Bon, en fait, il y a deux choses. Il y a l'aspect ingestion, c'est-à-dire que ce que Twitter va permettre de découvrir très très rapidement, c'est le nouveau contenu. Donc aujourd'hui, tous les gros blogs vont poster sur Twitter les nouveaux articles qu'ils vont publier, et ça leur permet en fait de déployer ces articles beaucoup plus rapidement que les flux RSS. Et donc, ce que peut faire un search engine tel Google ou Bing, c'est prendre cette URL et immédiatement lancer les crawlers sur ce contenu de manière à faire un rafraîchissement de l'index plus rapidement. Donc ça, c'est l'ingestion. Après, ils peuvent effectivement suivre la façon dont une pièce de contenu va être, par exemple, retweet. Et à partir du moment où cette pièce de contenu va être retweetée, je sais pas moi, une centaine de fois, un millier de fois, 10 milliers de fois, 1 million de fois, quelle que soit la barrière qu'ils souhaitent établir, ça veut dire que c'est un contenu populaire. Et donc, ça devient une source d'autorité quant au placement de ce contenu dans la recherche. Donc, c'est un moyen de gestion. Ouais. Et de l'autre côté, c'est pour essayer de voir où est-ce que tu positionnes un contenu. Parce que le gros problème aujourd'hui de Google, c'est quoi ? C'est qu'ils travaillent sur l'aspect, comment on dit, relevance.
Pertinence.
Ouais. Merci. La pertinence du contenu, mais bien souvent, le contenu pertinent, il est beaucoup trop vieux. Donc, ouais. Cette notion de je peux voir. J'ai une vision un peu plus temps réel, un petit peu plus fraîche du contenu. Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant.
Ouais, mais en même temps, regarde l'histoire qui s'est passée avec Michael Jackson. Enfin, en imaginant que ce truc ait été intégré il y a un an, moi, ça ne m'intéressait pas d'avoir, en tapant Michael Jackson mort sur Google, de recevoir 850 000 tweets et parmi ces trucs-là, avoir le seul site, parce que finalement, il n'y avait qu'un seul site que personne ne connaissait avant, qui avait envoyé cette information en exclusivité.
Personne ne connaissait, c'était TMZ qui est très connu.
C'est TMZ, dis pas, c'est pas connu, c'est pas vrai.
Okay, non, c'est pas très connu en France.
Ce que je veux dire, c'est que cette URL devrait monter tout de suite en premier résultat de recherche et après, éventuellement, avoir un petit lien à côté qui permet de voir tous les tweets qui en parlent, mais ça m'intéresse pas de voir tous les tweets de 140 caractères.
Non, mais je crois que
c'est ça.
C'est D'accord. que grâce à Twitter, ils peuvent. Parce que pour les gens qui ne. On passe un petit peu de temps sur cette histoire, mais c'est vraiment important. Pour les gens qui ne savent pas quel bénéfice peut avoir Twitter sur la manière dont on organise l'information sur Internet, si vous ne l'avez pas utilisé, et même si vous l'avez utilisé, peut-être que vous ne saisissez pas exactement cet aspect vraiment temps réel. C'est-à-dire que si on voit le monde avec Twitter et le monde sans Twitter. Le monde sans Twitter, il faut en gros regarder toutes les pages internet du monde et essayer de comprendre plus ou moins ce qui est important. Et dans le monde avec Twitter, on a une sorte d'oreille collée à ce que disent les gens dans le monde entier, ce dont ils parlent en ce moment, et on peut savoir immédiatement au moment où ils le disent, mais vraiment de manière instantanée, de quoi il parle. Et donc, si on voit qu'il y a une conversation qui commence à revenir régulièrement chez une grande partie de ces gens-là, on se dit que l'importance de cette conversation est grande, et donc on va pouvoir décider, les ordinateurs vont pouvoir décider que cette information est à présenter de manière prédominante par rapport aux autres informations. Et ça, c'est un outil absolument phénoménal pour l'organisation de l'information. Et comme les ordinateurs vont commencer à savoir trier toute cette information, ils vont finir par devenir conscients et ils vont pouvoir prendre le monde d'assaut très bientôt.
Skynet.
Voilà. C'est la suite logique après Twitter. Bon, bref. Voilà, donc ça, c'était la première histoire sur Twitter. L'autre, c'est l'histoire sur le nombre d'utilisateurs de statuts. Alors, ce qu'on appelle les statuts, c'est soit les messages Twitter. Donc, normalement, à la base, Twitter, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire, à quoi vous êtes en train de penser. Et on met en 140 caractères ce à quoi on est en train de penser. Pareil sur Facebook, les statuts Facebook, hein, tout le monde connaît ça. Et il y a un institut de recherche qui s'appelle le Pew Internet and American Life Project qui a déterminé qu'aujourd'hui, 19% des utilisateurs d'Internet utilisaient ces statuts, soit en lecture, soit en écriture, mais 19%, presque un cinquième de la population d'Internet utilise ces statuts-là. On parle de Twitter spécifiquement, donc un cinquième de la population d'Internet publie ou lit des statuts sur Twitter et beaucoup plus évidemment sur Facebook. C'est énorme. Moi, je me souviens encore de l'époque, il y a ne serait-ce que 6 mois ou 1 an, où les gens me demandaient ce qu'était Twitter. Quand je le mentionnais, déjà, les gens trouvaient ça idiot, quand j'expliquais. Et ensuite, ils ne comprenaient même pas, ils ne savaient même pas, ils n'en avaient jamais entendu parler. Déjà, 6 mois ou 1 an plus tard, on en est à 1/5 de la population. Ça me paraît presque trop gros pour être vrai, quoi.
Bah, c'est trop gros.
D'accord. Ouais,
vrai. Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de comptes Twitter qui sont réellement actifs ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur Twitter juste pour comprendre ce que c'est et ils balancent 2-3 tweets et après ils y vont plus, quoi. Et est-ce que ces gens sont comptabilisés dans ces 19% ? Est-ce que c'est pas un petit peu faussé ?
Je pense.
Oui, mais c'est là où en fait ils ont un petit peu joué sur les mots, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a le fait de publier tes updates sur Twitter, donc d'avoir un compte sur Twitter.com et d'être un utilisateur actif, et il y a le fait de visiter Twitter.com, donc un des comptes publics des célébrités. Ce qui arrive beaucoup plus. Et donc dans les notes, dans les liens, tu pourras mettre cette autre étude qu'une nana que je connais, Liane, a fait, et qui dit en fait l'utilisation de Twitter c'est à peine 90%. Parce qu'en fait
c'est à peine 90%, je comprends pas. 90% donc, de quoi?
Pew te dit oui. Un utilisateur sur 5 aux États-Unis utilise Twitter. Liane Prescott, donc, est une nana qui travaillait chez Hitwise et donc est une spécialiste de l'analyse de trafic et de trend internet, a repris les chiffres et en gros a démonté les mecs de Pew en disant les mecs ont fait n'importe quoi. Et en gros, ce que l'on peut dire à propos de Twitter avec les données qui sont publiques, c'est que 90% des utilisateurs d'internet aux US ne vont pas sur Twitter. Alors, elle ne connaît pas le chiffre exact, mais elle te dit, de par, tu peux lire son article, de par son approche, en gros, l'utilisation de Twitter aujourd'hui, c'est à peine 10% des utilisateurs aux US. Ce qui est énorme.
C'est ce que j'allais dire, c'est déjà monumental, 10%. Oui, d'accord.
Voilà, ils ont sorti sur aujourd'hui, il y a un nouveau chiffre Comscore qui est tombé, et en gros ils ont 58 millions d'utilisateurs dans le monde globalement.
Ouais, c'est ce qui est déjà quand même énorme pour un service qui n'existait quasiment pas il y a un an, qui était une sorte de truc confidentiel dont seuls les fanas de technologie étaient, enfin que seuls les fanas de technologie connaissaient, quoi. 58 millions, ça commence à devenir conséquent. Encore une fois, pour avoir une référence, Facebook, qui est dans le monde entier et qui a envahi le monde civilisé, c'est 300 millions.
Ouais.
Donc voilà, c'est pas rien. Dernière petite news sur Twitter, c'est l'arrivée des listes. C'est arrivé en bêta il y a, je crois, 2 semaines. Chez certains utilisateurs bien précis, tout le monde n'y a pas encore accès, mais les listes, c'est un petit peu une autre de ces utilisations de Twitter qui a été développée par les utilisateurs eux-mêmes et que Twitter a intégré ou est en train d'intégrer, c'est le fait simplement d'avoir des listes d'utilisateurs que vous allez classer. Donc si vous suivez, je ne sais pas moi, on va dire 300 personnes, bon, il y en a 250 que vous suivez pour leur faire plaisir parce que voilà, ils vous l'ont demandé et vous ne voulez pas être méchant. Personne ne fait ça, bien sûr, mais on ne sait jamais, c'est théorique. Et 50 que vous voulez vraiment suivre, vous pouvez mettre ces 50 dans une liste et ne consulter régulièrement que cette liste-là, et les autres les regarder de temps en temps. Alors ça, c'est l'utilisation la plus basique, mais vous pouvez aussi, par exemple, faire une liste des podcasteurs francophones et mettre dans cette liste tous les gens qui font partie de cette communauté, et pour avoir vos updates de ces gens-là directement accessibles très facilement, sans être pollués par tout le reste. Et là où ça devient véritablement intéressant, les listes comme ça existaient déjà dans certains logiciels comme TweetDeck ou Seismic Desktop que nous utilisons, mais là où ça devient véritablement intéressant, c'est qu'il y a une fonction pour rendre ces listes publiques et du même coup suivre la liste de quelqu'un d'autre. Donc par exemple, si, comme je le disais, si moi je fais une liste des podcasteurs francophones que j'aime bien, les gens qui vont sur ma page Twitter peuvent regarder mes listes, me dire « Ah bah cette liste, elle a l'air sympa, je vais suivre directement cette liste » et pof, vous avez directement toutes les updates de tous ces gens-là disponibles pour vous aussi, sans avoir à gérer telle et telle personne, je vais le mettre dans telle et telle liste, je vais suivre un tel. Et c'est, ça simplifie énormément les choses et ça donne un outil super pratique pour encore pousser la promotion de certaines personnes, faire connaître, découvrir d'autres utilisateurs intéressants à vos followers, conseiller par exemple un package. Enfin bref, vous comprenez comment ça fonctionne. Moi, je trouve que c'est une excellente idée et je pense que ça va devenir un outil, une partie intéressante de Twitter.
Oui. Okay. Tout à fait. En fait, on l'a vu dans la chatroom, c'est quelque chose que Sismic a promu il y a très longtemps, c'est quelque chose que TweetDeck a fait aussi. Le problème, c'est qu'on n'avait pas l'infrastructure, si tu veux, pour facilement copier ces listes tout et tout. Le fait qu'ils intègrent ça directement dans Twitter, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et donc maintenant, on va voir les listes de podcasteurs, de VC, d'entrepreneurs, de machins sortis dans tous les sens. Et il va falloir faire un gros travail de référencement pour être sûr que tu es dans les listes influentes, quoi.
Oui, ça va devenir une autre sorte de concours de
objet de convoitise.
Voilà,
être c'est... dans la liste.
Oh ouais. Mon Dieu, il est dans telle liste. Il est de... c'est vrai que c'est marrant de se dire, il va falloir. Alors, le nouveau truc, c'est plus le nombre de followers que tu as, mais dans combien de listes est-ce que tu es. Donc, c'est encore plus important.
Après, il faut faire gaffe à la liste dans laquelle tu es. Hein. Si c'est une liste des plus relous de Twitter, j'ai pas envie d'être dedans.
Tu veux pas être un relou ? Bon, c'est vrai. Mais je pense que ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'ils ont. Aussi annoncé que une fois que les listes sont bien implémentées, qu'ils sont contents avec le nombre de listes qui sont disponibles et tout, les gens de Twitter en fait vont virer leur propre liste de Twitter recommandée.
Oui. Oui, parce que
recommended user list. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir la capacité de cette liste à t'amener des centaines de millions,
Excuse-moi, là encore, je vais expliquer quand même aux gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire que quand vous créez un nouveau compte Twitter, le site vous propose des utilisateurs à suivre dès que vous créez votre liste pour vous donner un petit peu de contenu pour pas vous retrouver tout bête avec une liste, un compte Twitter totalement vide avec rien à voir. Et les gens qui sont sur cette liste se retrouvent presque automatiquement et immédiatement avec des centaines de milliers, voire des millions d'utilisateurs. Et finalement, ce sont des utilisateurs qui ne veulent pas dire grand-chose parce que ce n'est pas forcément des gens qui vont être intéressés par ce que vous avez à dire, etc. Et donc, à terme, comme le disait Jeff, le but serait de retirer cette liste. Pourquoi ? Pour proposer des listes intéressantes, mais faites par les utilisateurs avec ce nouveau système de listes intégrées ?
Je pense que ce sera quelque chose dans un truc comme ça. À mon avis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tous les jours ou tous les deux jours dire bah voilà, il y a telle liste ou telle liste. Et à mon avis, ils essaieront de faire varier les plaisirs en disant bah voilà, une liste d'artistes, une liste de journalistes, une liste de ceci, une liste de cela, de manière à ce qu'ils ne fassent pas la pub systématique. Des mêmes personnes. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a eu une espèce de bataille pour essayer de rentrer sur cette liste de personnes recommandées, parce que c'est énorme la distribution que tu as. Quoi.
Pour illustrer un petit peu l'importance de ce genre de choses, je vais donner un exemple très concret. Comme vous le savez, Twitter est en train d'être traduit dans différentes langues. Donc, à terme, il y aura une liste... il y aura Twitter en français, et il n'est pas du tout inimaginable que les Français, quand ils créent leur nouveau compte, ou quand il va voir une page où on recommande des listes, ils aient, par exemple, une liste de podcasteurs francophones à suivre. Et si on est sur cette liste, ça veut dire qu'on sera présenté de manière un petit peu proéminente à d'autres personnes, donc on a plus de chances d'avoir des followers en plus. Et donc, moi, je suis sur cette liste, j'ai plus de followers, donc quand j'envoie un message pour dire « le rendez-vous tech commence dans une demi-heure », comme je le fais depuis toujours, ce message arrivera à...
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Undaria Algae Body Oil.
Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.
Plus de monde, et donc plus de monde viendra écouter le rendez-vous tech, et donc ça, ça permet de faire un moyen de promotion par ce réseau social qui est très important. Donc c'est un petit peu, il y a plein d'étapes, mais au final c'est comme ça que fonctionne la promotion sur internet aujourd'hui, c'est ce buzz, et c'est pour ça que ces listes ont une telle importance, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, et que c'est pas simplement le fait d'avoir des listes dans son logiciel Sismic ou Twitter, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, uniquement en local. Là c'est des listes qui vont contribuer à cette dynamique sociale.
Alors, je veux pas qu'on j'aimerais juste rajouter un petit truc là-dessus, c'est que j'ai l'impression quand même que ce système-là, il va encore favoriser à mettre plus en évidence les personnes qui sont déjà connues, entre guillemets, sur la toile, mais monsieur tout le monde, finalement, il va pas particulièrement profiter de ce mécanisme. On parle de, voilà, les podcasteurs, les journalistes, les célébrités, les people, les trucs comme ça, mais les gens qui ont créé un compte qui n'ont pas de fame particulier ne se retrouveront jamais sur ces listes. Et je sais pas, moi j'aimerais bien un système qui permet un petit peu comme sur les commentaires des blogs après un article, tu vois, un système qui permet de commenter, de noter finalement un tweet pour pouvoir faire monter finalement les tweets les plus intéressants, et il y a un top des tweets les plus intéressants du mois par exemple ou de la semaine.
Écoute, c'est le retweet, c'est le principe du retweet, et c'est même plus, tu es presque visionnaire, mon cher Yann, parce que le système de retweet, donc de répéter un message qu'on a trouvé intéressant pour en faire profiter nos propres utilisateurs, nos propres followers, bah, ce système va également être intégré à Twitter, je crois qu'on en parlait le mois dernier, et il va être intégré d'une manière un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'on ne va pas répéter exactement le même message en pouvant le modifier, mais par contre, ça va fonctionner comme les « j'aime » dans Facebook. C'est-à-dire qu'on va cliquer dessus, ça veut dire « moi, je l'aime bien », donc ça va y ajouter une sorte de recommandation automatique par nous. Et donc, les tweets qui auront énormément de « j'aime » vont circuler très très vite, là encore, dans le réseau, et vont être mis en avant.
Bon, donc, d'accord. Okay. Alors,
c'est ce que tu veux, en fait. Donc, ils attaquent des deux côtés.
Que tout le monde puisse profiter de cette effervescence et que des gens puissent se démarquer, quoi. C'est dommage que ce soit toujours Ashton Kutcher et Britney Spears qui sont au top, quoi. Bah,
écoute, si quelqu'un... Moi, je vais te donner un exemple de quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois. C'est, il y a des gens avec qui je finis par discuter, moi, sur Twitter. Tu vois, des gens qui me font des hat replies régulièrement, une fois de temps en temps. Au bout d'un moment, bon, moi, j'ai pas des millions de followers, mais au bout d'un moment, tu finis par remarquer les noms qui reviennent. Et il m'est arrivé, suite à différentes interactions, de finir par suivre certains d'entre eux, alors qu'ils n'ont ni podcast, ni machin. Je pense notamment à des gens comme Copperdome, c'est des anglophones, hein, mais Copperdome, qui est un type avec qui j'avais discuté régulièrement, ou même Kelly Michel, qui aujourd'hui fait les posters de mon podcast en anglais sur les films. C'est-à-dire qu'on fait à chaque fois qu'on a un épisode, on prend un des films dont on a parlé dans l'épisode et on refait le poster en intégrant nos têtes, donc ma tête et la tête des autres animateurs. Et aujourd'hui, c'est Kelly qui les fait. Et Kelly, je l'ai rencontré comme ça. Moi, je l'ai rencontré par... Oula, il y a encore du feedback bizarre. On va attendre que ça passe. Voilà. Je l'ai rencontré comme ça, moi. Avec,
je sais pas du tout.
Ça arrive de temps en temps, c'est Skype qui fait des siennes. Et moi, je l'ai rencontré comme ça par Twitter, simplement. Tu vois, alors qu'elle n'avait ni podcast, ni site web à promouvoir, ni rien du tout. Et puis l'autre côté de ce que tu dis, c'est que, évidemment, les gens qui vont être les plus suivis, c'est des gens qui ont un truc dont ils parlent. Donc c'est un petit peu normal en même temps, si tu veux, quelqu'un qui a un site web, les gens vont se fédérer autour de lui, alors que quelqu'un qui est juste, tu vois, quelqu'un qui est sur Twitter pour suivre les autres, s'il n'y contribue pas par un moyen ou un autre, bah c'est normal qu'il n'ait pas autant de followers. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il est normal que moi, j'ai pas autant de followers que Ashton Kutcher. Donc, c'est un petit peu, tu vas te dire, oui, Patrick, tu pourras jamais te battre avec Ashton Kutcher sur le même
mais
niveau.
Si,
mais non, mais à la limite, c'est même pas le sujet. Le but n'est pas d'avoir des millions. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le but n'est pas d'avoir 300 000 followers. Le but est d'avoir une communauté sympa avec laquelle on est. Tu vois, on a des choses en commun. Donc, en gros, je suis pas du tout d'accord avec toi, Yann. Voilà.
Mais bien sûr, comme d'habitude, le contraire m'aurait étonné.
Écoute, je vais te donner... Ah pardon, Jeff, je sens que tu as pris ta respiration, tu voulais dire un truc.
Oui, je voulais juste mentionner qu'un des soucis que Twitter devrait adresser à un moment ou à un autre, c'est celui de, comment on va dire, discoverability, la capacité de découvrir des nouvelles personnes à suivre. Donc il y a pas mal de services genre Mr Tweet qui vont essayer de te recommander des gens que tu peux suivre. Moi j'y crois pas, je pense que c'est effectivement suite à des conversations et des gens qui vont rentrer en conversation avec toi que tu peux découvrir des nouvelles personnes à suivre. Mais quand on va avoir 50 millions de Pékin sur Twitter, ça va être un peu difficile de voir qui est-ce qu'on doit suivre ou pas. Sur Facebook c'est un peu plus facile puisque c'est avec ton social graph, donc les gens que tu connais. Sur Twitter c'est un peu plus difficile.
Ouais, il faut dire aussi par rapport à ça effectivement que il faut pas oublier qu'on est dans une période un petit peu particulière là dans la vie de ce service. C'est un petit peu la ruée vers l'or, quoi. C'est l'Eldorado de sur Twitter. Tout est à faire, tout est à construire. C'est comme dans les tout débuts d'Internet, les gens qui réussissaient à choper les adresses intéressantes avaient immédiatement un trafic important, et puis quand on arrivait après, c'était plus dur de se faire une place. Là, c'est un petit peu la même chose sur Twitter. Au début, si on est présent et qu'on parle un petit peu plus fort que les autres, bah, les gens vont forcément vers toi parce que t'es le seul. C'est sûr que quand il y aura 300, 400 000 comptes Twitter disponibles, ça sera plus compliqué de trouver les gens intéressants, et là, il y aura d'autres moyens sans doute d'y arriver. Yann, je vais te donner l'occasion de gueuler un petit peu. Le quart d'heure Twitter est terminé.
Non.
On a fait la demi-heure là. Ouais. On a notre dose de Twitter pour le mois au moins là. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui détestent Twitter dans l'émission, chez nos auditeurs là, parce qu'ils ont eu leur dose. Non, donc je vais te donner l'occasion de gueuler un petit peu contre le cloud, contre la.
Laisse-moi, je me mets bien en place là.
Allez, en condition.
Vas-y. Qu'est-ce que tu vas me sortir encore comme aberration?
Alors en fait, le cloud, comme vous le savez, c'est cette idée que les données, les services peuvent résider quelque part sur Internet sans être physiquement près de chez vous, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, par exemple. Et il y a eu un énorme problème avec le Sidekick, qui est un téléphone aux États-Unis, un téléphone un petit peu particulier, parce qu'il se trouve qu'il stockait toutes ces données, donc par exemple votre liste de contacts, il stockait toutes ces données quelque part sur Internet. Et lors d'une mise à jour, Microsoft a fait une petite erreur, et les données en question ont été entièrement perdues. Et comme le Sidekick est synchronisé en permanence avec les serveurs dans les nuages, sur le cloud, les gens qui utilisaient cet appareil, ce téléphone, se sont retrouvés avec une liste de contacts entièrement vide, un appareil entièrement vidé, sans aucune opération de leur part. C'était pas de leur faute, c'est simplement parce qu'il y a eu un truc qui s'est mal passé quelque part sur un serveur dans le cloud, et ils se sont retrouvés complètement pris au dépourvu avec un appareil qui était vidé. Il y a une suite à l'histoire, mais je vais attendre la réaction de Yann pour donner.
C'est un cadeau empoisonné ce que tu me fais, parce que tu me donnes un truc en or là, mais dedans tu dis que finalement c'est la faute à Microsoft, donc j'aime pas cette précision là.
Tu vas pas dire que c'est de la faute à Amazon, non? Donc, c'est forcément de la faute à Microsoft.
Non, en fait c'est vrai, il y a un piège, c'est que
c'est des branles de dans l'histoire niveau opérationnel, c'est tout.
Ben, c'est ça, c'est que le problème, c'est qu'ils... Alors d'une part, la plupart des données ont été récupérées. Pendant quelques jours, on a pensé que c'était pas récupérable. Finalement, ils ont réussi. Mais il est évident que la plus grosse erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait cette opération de maintenance sans avoir une copie de sauvegarde quelque part sur leur serveur. Et c'est une erreur, mais tellement énorme qu'elle est à peine croyable. Il est évident que, surtout quand on est un service qui fait ce type de... Enfin, une société qui gère ce genre de service... on doit en permanence avoir des copies de sauvegarde faites très très régulièrement. Et surtout quand on fait une opération de maintenance, de quelque nature qu'elle soit. Et là, ils ne l'ont pas faite. Et donc, ça a été... Mais il n'empêche. C'est-à-dire que la leçon quand même à retenir, c'est que quand on a ce type de service hébergé dans les nuages, et c'est le cas pour Google Gmail, pour les Google Docs, pour tous ces services qu'on utilise tous aujourd'hui régulièrement, eh ben, la leçon à retenir, c'est qu'on est à la merci de ces sociétés qui hébergent ces services. C'est-à-dire que si eux, ils se plantent un jour, eh ben, on n'a pas de recours. On est complètement, complètement
Ouais, enfin, c'est bizarre, parce que pour une fois que tu vas à l'encontre du cloud, j'aurais pu péter le champagne, mais, mais pas complètement, en fait.
Oh parce... non, tu me déçois, Yann, là, qu'est-ce que tu fais?
Mais non, mais c'est pas ça, c'est que il faut faire quand même attention, parce que là, c'est plus vraiment du cloud, c'est plutôt l'architecture client-serveur. À tout moment, forcément, à partir du moment où tu seras client d'un service, t'as forcément un serveur quelque part qui doit héberger l'information. Donc, c'est pas vraiment le cloud là qui est à mettre en cause, c'est plutôt la négligence au niveau de la tolérance de panne, c'est le fait qu'ils aient pas prévu de backup ou des trucs comme ça, quoi.
Ils avaient prévu des backups, c'est que comme trop souvent malheureusement que les backups, leurs backups ne marchaient pas. Et en gros, c'est la cascade où la machine de hot standby ne marche pas, puis après c'est le backup qui marche pas, puis le deuxième backup marche pas. Et en gros, ils se sont retrouvés avec, à mon avis, des sueurs froides, où pendant 48 heures, ils ont cru qu'ils avaient tout perdu, quoi.
Et t'es sûr que ça tournait sur des produits Microsoft ?
Oui, mais le truc, c'est que enfin, je sais plus quel était le nom du logiciel qu'ils utilisent. C'est un logiciel qui n'est pas géré par eux spécifiquement. Mais il n'empêche, je veux dire, le truc, c'est que bon, moi, mon argument, ça aurait été oui, d'accord, c'est vrai que ça peut arriver, mais ça peut aussi arriver sur votre disque dur en local, votre maison peut brûler. Bon, on n'est jamais à l'abri à 100% de tout, et il y a un risque dans le cloud qui existe, et il y a un risque quoi qu'il arrive. Mais bon, tu n'as pas saisi la perche, donc... petite note rapide pour spécifier que la loi Hadopi 2 a été votée. On a déjà dit 1000 fois ce qu'on en pense. Noter une fois de plus l'ineptie de cette loi, on précisera que le streaming est en train de remplacer le téléchargement direct pour le piratage, et que évidemment Hadopi n'est pas prévu pour contrer le streaming, mais nos chers députés annoncent qu'ils sont en train de s'y atteler également, donc Dieu sait ce qu'ils vont nous sortir. Mais une fois de plus, à mon sens, ça prouve que le piratage va muer,
c'est incroyable. Ouais, je crois qu'ils n'ont pas compris en fait ce que c'était. Tu vois, t'imagines le GIGN qui débarque chez toi parce que tu mates la télé du voisin, enfin c'est...
Oups. Bon. Ouais. Bon. Voilà. Bref, passons pas plus de temps sur Hadopi, ça va m'énerver. Ouais. Alors,
tiens, aux États-Unis, Patrick, on en a pas de Hadopi.
Oh, ça risque d'arriver. Bon, t'as vu les histoires avec la loi sur le net neutrality, avec McCain qui a déclaré qu'il voulait.
Mais c'est un républicain, faut pas lui en vouloir. Et puis en plus, attends, il est vieux, il
peut être. Non, mais il a annoncé publiquement en plus qu'il servait pas d'un ordinateur. Il savait pas servir d'un ordinateur. Et bon, bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. La neutralité du net, il faudra qu'on fasse un sujet là-dessus à un moment, parce que c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Et on va passer tout.
Ouais, j'ai suivi ta brève intervention Buzz Out Loud, où tu as parlé de ça, c'était très bien.
Ah, c'est vrai, tu étais d'accord ?
Oui, j'étais là.
Ce que je disais, en fait, c'est que...
Patrick !
Oui, j'étais sur Buzz Out Loud vendredi dernier, et d'ailleurs, bonjour à ceux qui nous ont rejoints après cette intervention. Et on parlait de ce problème de neutralité du net, et je disais justement que la neutralité du net est l'un des plus grands combats que nous allons avoir à mener dans les mois et les années qui viennent, parce que ça va définir Internet pour le futur, et c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important, et on vous en parlera plus en détail à l'avenir. J'hésite là à faire un petit chapitre sur la neutralité du net. Non ? Bon, en gros, allez, je peux pas me retenir. La neutralité du net, c'est l'idée que... alors, attention, parce que je vais m'énerver là. La neutralité du net, c'est l'idée que les fournisseurs d'accès à Internet doivent traiter toutes les informations sur Internet de manière égale. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas regarder. On en avait déjà parlé un petit peu, hein, mais là, je reprécise. Il y a encore Skype qui fait des siennes. Ils doivent traiter toutes les informations de manière égale et ils ne peuvent pas regarder ce que vous téléchargez ou ce que vous êtes en train de faire et décider ça c'est important, ça c'est pas important. Et le problème c'est que les fournisseurs d'accès américains veulent avoir le droit de faire ce genre de choses pour donner la priorité à certains services et pas à d'autres. On peut imaginer par exemple de vendre des forfaits d'accès à Internet qui ne vous donneraient accès que à certains des gros sites. Par exemple, on va vous dire Internet top 10 avec les 10 ou disons top 10 ou top 100 avec les 100 sites les plus importants et pas accès aux autres. C'est imaginable et il n'est pas du tout impossible que ce genre de choses arrive. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se décider en ce moment même. Bon, c'est aux États-Unis, hein, donc ça nous concerne un petit peu moins, mais ce genre de débat n'est jamais très très loin. Et c'est quelque chose qui est en train de se décider en ce moment et c'est hyper, hyper, hyper important parce que si jamais on a le droit de toucher à la neutralité du net, ça veut dire que l'Internet de demain sera défini par des règles différentes de ce qui a fait la liberté et l'ouverture du net d'aujourd'hui. Et ça, ça pourrait transformer son aspect. Et ça serait, à mon sens, une perte de ce qui constitue la force d'Internet aujourd'hui. Voilà. Je ne me suis pas énervé, j'ai fait court. la suite, c'est
plus un.
voilà, retweet.
Retweet, ouais, exactement.
Non, mais c'est vrai, c'est super important. Et malheureusement, les dérapages pour arriver très très rapidement, surtout en passant par les carriers, les opérateurs wireless qui ont toujours tendance à dire bah tiens, va donc chercher ton service là plutôt que là, etc. Et c'est vrai qu'il y a il y a un gros risque et c'est pour ça que notre ami à la FCC a vraiment une énorme charge sur ses épaules de faire passer des lois qui vont assurer une pérennité d'Internet pour les années qui viennent. Parce que ça devient en fait un médium de communication. Ça, c'est un médium de communication, mais ça devient un médium de commerce. Et en fait, ma crainte, c'est que, alors que de plus en plus de revenus sont faits online, comme ça, il y a une énorme tentation en fait des gros opérateurs de reprendre en fait une mainmise là-dessus, parce que AT&T en fait voit tout ce revenu passer sur ces tuyaux et ils en capturent essentiellement 0,0,0%. Et pour eux, ça c'est un énorme problème.
Bon, on passe à
Go Julius.
La séquence des rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
La séquence des rumeurs à la con. La première rumeur, bon, c'est pas vraiment une rumeur, c'est simplement un truc sur lequel on passe très très vite. On vous parle depuis quelques mois de la révolution des e-readers. Et ben, sachez qu'il y a eu deux ou trois nouveaux e-readers qui ont été annoncés. Un e-reader Plastic Logic, qui est une société qui développait ça depuis très longtemps, et le Nook de Barnes & Noble. Barnes & Noble, c'est une énorme chaîne de librairies aux États-Unis, énorme, 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 qui a sorti son propre e-reader, qui est très intéressant, qui a un écran en e-reader classique, c'est-à-dire noir et blanc en haut, noir et blanc au contraste, un truc de papier électronique, et en bas, ils ont un petit écran tactile couleur. Donc,
je crois que t'as un problème avec ton micro.
Ton micro là.
Allô ? Voilà. Que se passe-t-il ? D'accord, pardon.
Tu avais décroché ton micro. T'as fait trop.
Ah, pardon. Je refais toute l'histoire ou ?
Non, parce qu'on s'en fout donc.
D'accord. Bon voilà, donc Barnes & Noble, les e-readers sont en train d'envahir le monde comme on le pensait. iPhone 4G en test chez Verizon, Verizon étant un opérateur de téléphonie mobile aux États-Unis. Il y aurait des rumeurs selon lesquelles Apple est déjà en train de tester la prochaine version de l'iPhone sur le réseau 4G chez eux. Ça n'est pas encore confirmé, mais la rumeur est arrivée il y a une semaine. Une autre rumeur à propos de... bon, on en parlait tout à l'heure, c'est pas une rumeur, mais c'est une info importante de la neutralité du net. Google et beaucoup d'autres se sont unis pour annoncer qu'ils soutenaient la neutralité du net et l'initiative de la FCC dont on avait déjà parlé. Donc, publiquement, et il y a beaucoup de grands de grandes sociétés qui l'ont dit, et notamment l'une des personnes qui était derrière la création d'Internet à l'origine. Donc on a vraiment une légitimité derrière cette cette idée de neutralité du net. Encore un autre truc, c'est l'annonce, on parlait de téléphonie il y a quelques secondes, il semblerait que Free soit désormais le seul en piste pour la quatrième licence 3G. Bolloré, Virgin et les autres se sont désistés, ils ne présenteront pas de dossier, et Free serait aujourd'hui le seul à présenter un dossier. Évidemment, il y a quelqu'un qui peut sortir du bois à la dernière seconde, mais il est possible que Free soit le seul. Et ça serait a priori une excellente nouvelle, parce que de la même manière qu'ils ont fait énormément de bien au marché des fournisseurs d'accès il y a quelques années quand ils sont arrivés, il n'est pas impossible qu'ils fassent la même chose si ça se concrétise dans le marché des téléphones mobiles. Je vois que quelqu'un a rajouté la dernière nouvelle dont j'avais pas parlé, mais la nouvelle du magasin MP3 sur Facebook. Quelqu'un en a parlé ?
C'est pas moi.
Ah bah c'est peut-être moi. D'accord.
Ah bah c'est pas moi non plus.
Ah bah c'est moi alors, je m'en souvenais plus. Facebook va peut-être intégrer...
Ah mais c'est Lala, mais bien sûr, Lala, bien sûr.
Oula, qu'est-ce qui se passe?
Non, c'est pas moi, mais...
Jeff
c'est réveillé. Non mais c'est mon copain, le CEO de Lala, c'est mon copain Jeff Ralston, bon. Qui était l'ancien...
Jeff, il va falloir que tu nous expliques à un moment si... En fait, ce qu'on va faire, on va faire un truc plus simple. Quand une personne dont on parle dans le rendez-vous tech n'est pas un de tes potes,
tu
le préciseras. Ça sera plus facile.
Ça, c'est pas sympa. Je vais te taire pendant tout le...
Mais non, mais justement, c'est un compliment. Donc, tu disais que c'est un de tes potes. Et bah, peut-être que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit. Moi, ça me paraît très important, mais... Allô ?
Ah, je crois qu'il est vexé, en fait.
Soit il est vexé, soit il a été déconnecté.
Lala, c'est un service d'écoute de musique en ligne où tu peux en fait acheter. Donc je me rappelle plus exactement leur système, mais en gros tu vas acheter des crédits pour écouter la musique en ligne, et tu vas pouvoir en downloader une partie. Donc ça te permet en fait d'accéder à de la musique pour vraiment pas cher. Donc c'est un gros pari que la boîte a fait sur leur capacité à atteindre un gros niveau de distribution. Et donc ça fait plusieurs mois que Jeff, qui était l'ancien Chief Product Officer de Yahoo, donc pendant 6-8 ans, c'est lui en fait qui a été en charge de tous les produits Yahoo, du temps où en fait Yahoo était encore important sur le net. Et donc il est rentré chez Lala il y a à peu près un an et demi maintenant, et donc ce deal Facebook, ça fait un petit bout de temps qu'il travaillait dessus, et donc il était super content de pouvoir le lancer.
Et donc ça veut dire qu'on pourra bientôt acheter nos MP3 par Facebook, et j'imagine faire des liens à nos potes, dire voilà, j'ai acheté ça, j'ai acheté ci, je connais tel groupe. C'est un truc assez important là encore pour la promotion en ligne, quoi.
Absolument.
Et voilà, bah écoutez, ça va conclure notre partie des rumeurs à la con, et on passe à notre conclusion avec la statosphère de Guillaume et le deuxième épisode qu'il nous a envoyé, et je vous le passe tout de suite avec des statistiques plutôt intéressantes.
Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de nous intéresser aux résultats de deux enquêtes traitant des pratiques culturelles des Français, notamment en matière de consommation de musique, de vidéos ou sorties au cinéma. Une d'elles est réalisée par l'Institut Ipsos, l'autre est commanditée par le ministère de la Culture. On y apprend que la France est loin d'être la championne du monde du piratage. Les pays moins bons élèves sont légion, les États-Unis, l'Italie ou l'Espagne, et surtout bien sûr la Chine. On apprend également que les jeunes téléchargent autant illégalement que légalement. Mais s'ils ne téléchargent pas, alors ils ont tendance à ne pas acheter non plus. Les plus jeunes achètent jusqu'à 5 fois plus de CD, jusqu'à 2 fois plus de DVD que leurs aînés. 6 jeunes sur 10 vont au cinéma au moins une fois tous les 2 mois, et c'est presque 6 fois plus que leurs parents. À la lumière des résultats de ces sondages, il est difficile d'imaginer comment l'industrie du disque et du cinéma se relèvera si Adopi coupe la connexion Internet à ses meilleurs clients. Retrouvez tous les résultats de ces sondages et toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. À bientôt.
Oula, ça n'a pas marché. Ok, c'est bon. Donc, Merci Guillaume pour ta statosphère. Comme toujours, vous retrouvez différentes stats sur statosphère.fr, le site de Guillaume, et merci bien. Effectivement, bah, c'est une fois de plus, moi j'aime bien ce genre de petites études, parce que une fois de plus, c'est la preuve que les gens de l'industrie du disque et du cinéma ne comprennent rien à la manière dont ça fonctionne, et ils sont en train de se battre une fois encore contre leurs meilleurs clients. Enfin, je sais pas quelle autre preuve on peut donner que le fait
J'en ai une justement là sous les yeux. Enfin, c'est un truc que je lisais pas plus tard qu'hier, et où un article où on expliquait que les ventes de singles se sont complètement écroulées donc sur les 10 dernières années, et donc mais qu'en fait ça s'est rattrapé au niveau des achats fait en ligne sur des plateformes comme iTunes. Et donc j'ai les chiffres devant moi. En 2002, il y a eu 44 millions de singles qui ont été vendus contre 1,6 million en 2009. Mais en cette même année 2009, on a 116 millions de singles qui ont été vendus sous forme numérique. Donc 44 millions en 2002 et 116 millions aujourd'hui en 2009, mais cette fois-ci sous forme digitale. Donc finalement, ils se font plus de fric aujourd'hui avec les singles digitaux qu'ils s'en faisaient en 2002 avec... Donc en fait, l'industrie est en train de changer, et si on s'adapte pas, ben on peut pas profiter de tout ça. Mais voilà quoi, rien n'a disparu, tout le monde n'est pas devenu un pirate, c'est juste que voilà, les gens consomment différemment, il faut prendre le wagon.
Oui, et puis surtout, il y a un shift énorme qui se fait pour dans le monde de la musique sur les concerts, les performances live, le merchandising, donc tous les produits dérivés que bah, les t-shirts, etc., que les artistes peuvent faire. Ils sont aussi en train de développer leurs propres canaux de communication au travers des plateformes sociales, Facebook, MySpace, etc., etc. Donc ils ont des énormes canaux de communication où ils peuvent ensuite pousser pas mal de produits dérivés, là encore. Donc c'est juste l'acte d'acheter quelque chose de physique lié à la musique va disparaître, mais bon.
Ouais, tout à fait. Okay.
Et je voulais dire un truc. Ah oui, tout à fait.
Désolé,
je m'endors. Non, mais c'est par rapport à ce que tu disais, à ce que vous disiez tous les deux. Il y a U2 qui fait un concert streamé en live sur YouTube cette nuit. Bon, si vous téléchargez l'épisode demain, ça sera un petit peu tard. Mais c'était hier déjà. C'est passé.
C'était dimanche. Oui, c'est passé. Ah c'est pour ça. Je l'ai dans les notes. C'était gigantesque. C'était au Rose Bowl à Los Angeles, donc j'avais des copains qui étaient... Désolé. Mais... Donc mes copains de YouTube donnaient un concert. Non, mais c'était gigantesque. C'était surréel, l'environnement. Et donc maintenant, vous pouvez aller sur YouTube à youtube.com/U2, et vous pouvez regarder la totalité, l'intégralité du concert d'hier soir, et on pouvait le regarder en direct, et c'est gigantissime et c'est gratuit.
Ben voilà, ils ont compris.
Et le stream a été regardé en moins de 24 heures plus de 6 millions de fois, et à la limite c'est pas
comment bon. Et comment ne pas comprendre que ça c'est une opportunité, enfin bref, ne repartons pas là-dessus. On passe à ça.
Et voici venir la liste des sites fantastiques, tic, tic. Bon d'accord, c'est un écho fait à la voix, mais je suis pas hyper doué.
Merci Cédric. Bon, j'ai utilisé presque tous les jingles ce coup-ci, mais ça valait le coup. J'avais fait en fait un écho idiot sur l'épisode précédent, et je crois que l'idée m'était venue, enfin l'idée, le délire m'était venu après avoir entendu ce truc qu'il m'avait envoyé. Oui, c'est ça, voilà. Et je crois en fait que l'idée m'était venue après qu'il m'ait envoyé ça inconsciemment, donc la moindre des choses que je pouvais faire, c'était le jouer cette fois-ci. Donc le site fantastique, on va en avoir qu'un, comme d'habitude, hein, mais c'est pas celui que j'avais prévu, c'est un site dont m'a parlé notre ami Mathieu Blanco. Décidément, on peut pas faire une émission sans parler de lui au moins deux ou trois fois. C'est un site qui s'appelle macsign.fr, donc M-A-C-S-I-N. www.ign.fr. Alors, les gens que ça concerne directement ne vont pas forcément en entendre parler. Oula, il y a une quantité de plaisanteries de mauvais goût à faire là-dessus. C'est invraisemblable. Maxine, c'est un site qui suit l'actualité. Ah, mais décidément, je ne sais pas ce qui se passe quand on est ensemble, mais j'ai toujours des trucs comme ça. C'est un site qui suit l'actualité Macintosh, qui fait des vidéos qui vous expliquent l'actualité Macintosh presque tous les jours en langage des signes. Donc, pour les sourds et les malentendants. Et là, vous comprenez pourquoi la plaisanterie est peut-être de mauvais goût quand je dis les gens ne vont pas en entendre parler en écoutant l'émission.
Ah oui, ouais, d'accord. Très bien.
Oui, c'était pas voulu. Oh, on rigole, hein,
alors,
c'est bon.
Tu prends, de toute façon, ils entendent pas. Tu prends une tapette et tu tapes sur les mains tout de suite. Yeah. Là, maintenant.
Aïe. Voilà, c'est fait. Donc voilà, en fait, si vous avez des amis qui sont sourds ou malentendants, vous pouvez leur conseiller d'aller sur maxine.fr. Le lien sera dans les notes de l'émission, évidemment. Et c'est super bien fait, c'est très simple, c'est bien designé. Et donc, merci à Mathieu de nous avoir parlé de ça. Je trouve que c'est une super initiative. Et si on peut lui filer un petit coup de pouce, j'imagine qu'ils n'ont pas besoin de nous. Mais on le fait quand même avec plaisir, maxine.fr, c'est le site fantastique. Et le conseil logiciel, j'imagine que c'est Yann qui l'a collé dans la liste cette fois-ci.
Du tout.
Non ? C'était qui ?
Alors, non, ça doit être Jeff. Alors, pas de conseil logiciel.
C'est un logiciel Mac ?
Non, c'est un logiciel. Est-ce que c'est... Mais qui a fait ça, en fait ? Est-ce qu'on aurait un fantôme dans... Mais c'est peut-être ça, en fait. Les bruits qu'on entend, c'est le fantôme du rendez-vous tech.
Mais attends, je regarde ce document qui est donc quelque chose de secret entre Patrick, Yann et moi, et je vois Matt. C'est qui, Matt ?
C'est Mathieu qui vient, en fait. Il vient depuis que je lui ai partagé. C'est ça, le problème, quand tu partages tes trucs sur Internet, sur Google Tech. Il vient... Et il rajoute des histoires de temps en temps. Alors je suis obligé de virer les histoires. Et il est là. Il me dit hey, je t'ai rajouté une ou deux histoires dans ton line-up. Très gentiment. Moi je suis là, Mathieu, mais tu fais chier. Arrête de faire ça. Non, je plaisante.
Si personne n'est préparé pour ce petit logiciel, on va le présenter la prochaine fois. Et je vais en proposer un aujourd'hui.
Non, mais moi j'en ai un. Je veux dire. Je suis prêt sur celui-là, mais...
Ok, très mais, bien, vas-y alors, ce sera pour la prochaine fois.
D'accord. En fait, c'est un logiciel qui s'appelle Product Key Finder. C'est un truc qui te permet de retrouver très facilement les numéros de série de tes logiciels sous PC. Par exemple, si tu as besoin de retrouver le numéro de série de Windows ou de Office... Tu peux télécharger ce logiciel et il va te le retrouver directement, facilement, sans avoir besoin d'aller farfouiller un petit peu partout dans ton système ou dans tes papiers. Là, c'est très simple, tu le retrouves, tu l'écris et tu l'as récupéré facilement. Product Key Finder, c'est super pratique.
Nice.
Voilà. Écoutez, c'est la fin de l'émission. Oui, on a juste un petit truc à faire avant de passer à nos commentaires sur iTunes. C'est un remerciement que je veux faire. Alors attends, que je dise pas de bêtises. Un remerciement à Philippe parce que j'ai mis sur le site, sur French Spin, un petit lien pour pour nous laisser un pourboire. Enfin, pour laisser un pourboire pour l'hébergement de l'émission. Enfin, pour laisser un pourboire, tout court. J'en avais pas parlé. Et Philippe l'a déniché et il nous a laissé un petit pourboire. Donc, je le remercie grandement parce que maintenant, pour différentes raisons, je n'ai plus de source d'approvisionnement pour les podcasts. Et donc, les frais sont en train de monter. Et bien là, grâce à la contribution de Philippe, il y a une petite, toute petite partie qui est à laquelle il a contribué. Donc merci beaucoup à Philippe, c'est très gentil de ta part. Et donc le lien pour les pourboires est sur le site. Si vous vous sentez d'humeur généreuse, n'hésitez pas à y faire un petit tour.
Moi j'avais deux petites choses, si je peux me permettre.
Ouais. Donc, je t'en prie.
Je viens juste d'en ajouter en temps réel dans notre spreadsheet.
Maudite collaboration.
Non mais j'avais oublié de le faire. C'est une application qui s'appelle Red Laser. C'est sur l'iPhone. Je pense que ça ne fonctionne pour le moment qu'aux États-Unis, mais c'est un système qui va te permettre de scanner les barcodes de produits de tous les jours quand tu vas faire tes courses et de recevoir immédiatement les meilleurs prix sur Internet. Donc tu vas dans un Best Buy, tu veux voir combien est ta copie de Windows 7 sur Internet, tu scannes le barcode et paf, ça donne immédiatement les prix. Et ça c'est super, donc j'ai mis le lien.
Mais ça marche bien parce que le problème de l'iPhone c'était la question du focus en fait, de l'autofocus qui n'était pas... Enfin bah écoute, surtout en
avec
macro...
Avec mon 3GS ça marche pas mal hein.
D'accord. Ah bah je vais le retélécharger, ça se trouve ça fonctionne.
Ça veut dire quoi, ça marche pas mal. Ça marche pas super bien non plus.
Non, j'ai pas eu de soucis.
D'accord. Okay.
J'ai la nouvelle optique, j'ai le 3GS, donc la nouvelle optique que tu as avec le téléphone. Donc
ouais, avec l'autofocus et Microsoft.
Et l'autre.
Et puis autrement, pour nos amis entrepreneurs qui écoutent le Rendez-vous Tech, je vous recommande très très chaudement cet article que Paul Graham, qui est l'instigateur principal de Y Combinator aux États-Unis, qui en gros est un précis sur ce que ça veut dire de lancer une start-up, et 19 points qui sont vraiment super bien faits, qui sont en fait la substantifique moelle du feedback que lui ont donné une centaine d'entrepreneurs avec qui il a travaillé. Donc c'est un super... une super dissertation hein, ou je sais pas, enfin bref, c'est super, allez voir si vous êtes entrepreneur, lisez-le, relisez-le, je ne saurais que le recommander.
Et donc on l'a pas précisé dans cette émission, mais Jeff sait de quoi il parle puisqu'il est venture capitaliste, donc il gère ce genre de choses toute la journée. Donc s'il vous dit que c'est bien, vous pouvez lui faire confiance. iTunes, évidemment, c'est le répertoire privilégié des podcasts. Et qu'est-ce qui se passe sur ce répertoire ? Eh bien, c'est quand même bien quand on est plus haut dans la liste. Et comment on fait pour être plus haut dans la liste ? Soit on a des nouveaux abonnés, soit on a des commentaires positifs. Enfin, des commentaires. Et donc, on vous remercie tous de nous mettre des commentaires. Si vous avez une minute ou deux, vous pouvez aller le faire. C'est pas très long et ça nous aide beaucoup. Et puis, certains d'entre vous l'ont déjà fait. Donc, comme d'habitude, on va lire un ou deux petits commentaires pour vous remercier. Le premier, c'est celui de Seb do Brasil. Je sais pas
oh
si
là là, que caro.
Do Brasil. Donc Seb do Brasil qui dit: j'ai découvert ce podcast grâce au spécial Patrick Béja de l'épisode 5 du Zapcast. D'ailleurs bonjour aux Zapcasters, Jérôme qui est dans la chatroom également, si vous n'êtes pas au courant. Je sais plus si j'en avais parlé la dernière fois. Bref, c'était un épisode spécial de ce podcast vidéo où ils ont fait un épisode spécial moi, donc hyper flatté évidemment.
Spécial toi.
Ouais. C'était spécial.
Spécial Patrick Béja, moi.
Wow. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, il parle. En fait, c'est un podcast sur les podcasts. Donc, il parle. Il recommande des. Voilà, il recommande des podcasts intéressants, etc. Et donc, ils ont fait un épisode où ils ont un petit peu parlé de la manière dont je gérais les choses, dont je préparais les émissions, etc. Et donc, c'est avec énormément de plaisir que j'ai participé à leur émission. Et je vous le recommande parce que l'épisode est sympa, mais le podcast en lui-même est évidemment super intéressant. Bah, le truc, c'est que si vous écoutez déjà les émissions que je fais, ça va pas forcément vous intéresser, cet épisode spécifiquement. Mais par contre, les autres vous permettront de découvrir d'autres émissions. Et donc, c'est toujours bon à voir. Et donc, Seb nous dit... qu'il a découvert grâce à Zapcast, et il dit: ce podcast est très bon, discussion très intéressante concernant les nouvelles technologies, notamment sur l'utilité réelle de Google Wave. Je vais donc continuer à l'écouter et le mettre dans mes podcasts favoris. Merci.
Je vois que tout le monde se pose encore la question à quoi ça sert.
0 0 0 0
Tis in Rio, je sais pas ce qui se passe avec le Brésil en ce moment, mais c'est le festival. Je l'ai faite en direct, celle-là. Bref, petite émission.
Tu rajouteras un petit bruitage derrière.
Je sais pas, on verra. Donc, Tis nous dit: petite émission audio décontractée qui me permet de me mettre à jour sur l'actualité du web et ses principaux acteurs. Un bon moyen de rester connecté sans trop se prendre la tête lors de mes trajets en bus entre le boulot et la maison. Le format audio me convient d'ailleurs parfaitement à recommander à tous les fans de nouvelles technologies liées au web. Merci, Tis. N'hésitez pas à recommander l'émission et donc à aller mettre des petits commentaires sur iTunes. Et on se quitte en disant évidemment que vous pouvez aller voir le site de l'émission sur lrdv.fr ou plus simplement frenchspin.com. Vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse tech@frenchspin.com. Vous pouvez me suivre sur Twitter à twitter.com/notepatrick, comme Note Patrick. Hein, c'est simple. Et vous pouvez en savoir plus sur mes deux comparses habituels aux adresses qu'ils vont vous donner immédiatement, en commençant par Jeff.
Ben, c'est Jeff. C'est tout. J-E-F-F, Twitter.com. Voilà.
Exactement. Hein? Et Yann, c'est...
Et Yann, c'est Yann Allet, Y-A-N-A-L-T. Et moi, je n'ai pas d'amis chez Twitter, donc je n'ai pas pu avoir Yann tout de suite.
Ouais, mais je n'ai pas d'amis chez Twitter. Pourquoi tu dis ça, Yann? Franchement, hein, pourquoi tu dis ça? J'ai d'amis personne, d'ailleurs.
Non, mais c'était un compliment, je disais que c'était une bonne chose. Et Yann, tu as le temps de gérer ton blog en ce moment ou tu es un petit peu occupé par, par tes affaires montréalaises?
Quelque chose d'assez énorme dessus.
Ah, pardon, on t'entend pas très bien là.
Je suis en train de préparer quelque chose d'assez conséquent pour le blog, mais comme je ne suis pas sûr de la date de sortie, pour le moment, je préfère pas communiquer dessus.
Ah d'accord, donc tu nous fais une sorte de petit teaser là, magnifique.
Voilà, exactement. J'en parlerai sur le rendez-vous tech quand tout sera prêt.
Ça marche. Eh ben écoute, là, même moi, je suis pas au courant, donc je vais te poser la question après. Bah écoutez, ouais, en tout cas,
on sent du truc là. Il faut les infos.
Bah en tout cas, voilà. On vous remercie d'avoir écouté l'émission. On remercie la chatroom d'avoir été là. Merci à tous. Et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le 9 novembre, pour le prochain épisode du Rendez-vous Tech. Ciao à tous.
À très bientôt. Salut.
Damned, j'ai oublié de préciser que le rendez-vous tech sera à la conférence Le Web qui a lieu en décembre. Loïc a eu l'immense gentillesse de m'envoyer une invitation. Je pourrai y être. Et donc, voilà, on vous fera suivre ce qui se passe là-bas dans l'épisode qui suivra. Et d'ailleurs, je vais y retrouver Jeff qui y sera aussi, n'est-ce pas? Tu vas faire une présentation là-bas, n'est-ce pas?
Eh bien, écoute. Cette année, donc j'avais dit à Loïc, puisque ça fait la 6e fois que je parle, que je ne parlerai pas, et puis t'arrivais la queue entre les jambes en disant « Est-ce que tu veux pas me faire mon panel sur l'iPhone, s'il te plaît, s'il te plaît ?» Et donc je fais le panel sur l'iPhone, qui sera super intéressant d'ailleurs, donc je suis très très excité. Et puis je crois que je serai également un des juges de la Startup Competition, qui a lieu le 9 décembre. Donc le web, on le rappelle, c'est le 9 et le 10 décembre. C'est une super conférence, c'est là où tous les gens qui viennent d'Europe dans le monde de la start-up, mais aussi de la Silicon Valley, se retrouvent une fois par an à Paris. Et donc, je ne peux que vous recommander d'y être. Ça vaut vraiment le coup. Et en plus, cette année, vous aurez Patrick.
Oui, dans l'assistance.
Dans l'assistance, mais on va pas essayer de faire un ou deux segments depuis le web.
Tu veux
pas
essayer on essaiera, bien sûr. On essaiera, je prendrai mon petit dictaphone et puis on s'enregistrera un petit truc en direct de là-bas. Ça sera sympa, ouais. Parce Yann, tu veux pas refaire un passage par Paris en décembre?
Bah écoute, si jamais Loïc il veut bien me payer à la fois l'entrée et le billet d'avion, ouais, il n'y a pas de problème.
Ouais, là, faut peut-être aussi. Pas.
On va. Pas arriver, hein. On verra ce qu'on peut faire, hein, Yann. Oui, bien sûr. Ok, bon, bah voilà, donc on retourne
à notre. Si tu écoutes ce podcast, tu vois ce que tu fais, hein, mais bon. Hein.
Non, mais tu. Bon, bref, voilà. Bon, donc le web, le 9 et le 10 décembre, on y sera et donc vous y serez forcément avec nous.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.